RCF. RCF, Fabrice Gironnet.
18h10, vous êtes sur RCF le 18-19 en région, c'est avec Alexis Claudretz.
Bonsoir à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver ce jeudi avec nos habitués qui sont là, même en période de vacances scolaires. Vous avez entendu Fabrice Gironnet qui est à la mise en onde ce soir, vous entendrez dans quelques secondes Gérard-Marie Henry pour des questions d'économie à propos de McDonald's, une entreprise qui compte en France. On parlera bien évidemment du carême avec plusieurs témoignages ce soir, celui de sœur Claire Bénédicte. Elle était avec nous déjà hier et c'est vrai qu'elle n'avait pas pu aller jusqu'au bout de son propos. C'est pourquoi ce soir on vous propose une suite. Sœur Claire Bénédicte, elle est sœur Clarisse à Cormontreuil pour le diocèse de Reims et des Ardennes. Nous serons également avec le père Vincent Dilizia qui nous expliquera ce que représente le carême pour lui. On parlera de la passation entre les deux directeurs de bord de Seine du côté de Vitry-le-François. On ira aussi en balade avec les maraudes et les cafés sourires. C'est les différentes actions qui sont menées en cette période hivernale par le secours catholique. Et puis un maire qui nous parle à 18h20, c'est Jean Barois, le maire de Vieux-le-Tilleul, qui sera au micro de Jean-Pierre Benoît. Voilà pour le sommaire de cette émission. Le jeudi, c'est les questions d'économie qui ouvrent le bal avec Gérard-Marie Henry, avec nous en studio. Gérard-Marie, bonjour.
Bonjour Alexis.
Il y a quelques semaines, on avait parlé avec vous de la franchise McDonald's, de sa nouvelle recette, le Big Mac, qu'est-ce qui changeait, etc. Dans ce fabuleux sandwich, aujourd'hui, on va s'arrêter sur McDo en tant qu'entreprise. Finalement, McDo, c'est vrai que lorsque l'on regarde de l'extérieur en produits que l'on pourrait consommer, c'est pas forcément l'idéal pour la santé, même si des fois ça dépanne. Mais en termes d'entreprise, d'emploi, de chiffre d'affaires, de salaire, etc., finalement, McDonald's, c'est une belle entreprise qui a bien fait de s'implanter en France à un moment donné.
Oui, oui, c'est une entreprise qui a un rôle significatif. Hein. Donc, on va arriver aux 1600 restaurants, à peu près. Hein. Depuis que McDo a redémarré, en fait, il a eu une histoire au début. Il avait un franchisé qui ne respectait pas les règles. Et donc, McDonald's a été obligé de le virer. Et le gars, évidemment, s'est défendu pour garder la franchise. Enfin, bon, ça a piétiné un petit peu, puis à partir de ça, donc le McDonald's a ouvert un nombre important et continue à en ouvrir. Et donc, ça a un impact sur l'économie française. On va voir, par exemple, que chaque McDo qui est ouvert, c'est plus de 40 emplois directs et indirects. Alors, il y a les tailles de McDo qui changent, mais vous voyez, entre 40 et 50 emplois par restaurant, c'est beaucoup.
Mais elles sont où toutes ces personnes, Gérard-Marie Henry? Parce que lorsque l'on se rend dans un restaurant McDonald's, on voit effectivement quelques équipiers qui sont là au comptoir avec le manager, on en voit 2-3 derrière en cuisine, on se dit, ils y sont une dizaine. Voilà. Et là, vous nous dites, on en a 40-50 par McDonald's.
Oui, alors donc, les gens qui vont travailler dans l'agriculture, on va en reparler pas mal, qui fournissent les produits à McDonald's. McDonald's, au tout début, importait pas mal de choses des pays voisins de l'Europe, mais maintenant, pratiquement, presque tout est fait en France. Donc, on a déjà toute l'agriculture qui contribue, c'est-à-dire des milliers d'agriculteurs hein, qui travaillent pour McDonald's avec des contrats. Puis, on a tous les intermédiaires, tous ceux qui transportent, amènent. On a tous ceux qui fabriquent les petits pots, les cartons, etc. Enfin, on a donc toute une ribambelle de gens qu'effectivement, on ne voit pas quand on va manger dans un McDo, mais c'est important. Donc à peu près entre 40 et 50 emplois à temps plein. Et ce restaurant McDo, toujours moyen, hein, il y en a qui sont bien plus importants. Par exemple, à Reims, on a des McDo qui tournent assez bien. Celui qui a la plus grosse rentabilité, c'est celui qui est sur les Champs-Élysées, bien sûr. Mais un McDo moyen, c'est 4 millions à peu près de contribution à la valeur ajoutée de la France. 4 millions d'euros que McDo fait rentrer dans l'économie française. Et c'est pas mal. Et un chiffre d'affaires donc, qui est assez impressionnant puisque c'est 6 millions d'euros de chiffre d'affaires moyen d'un restaurant. Donc vous comprenez pourquoi les franchisés, hein, je ne sais pas si vous connaissez le terme, mais McDonald's supervise les restaurants, les oblige à respecter des règles, etc. Mais en fait, les restaurateurs possèdent leur propre restaurant, touchent évidemment les bénéfices, mais rétrocèdent à McDonald's d'une partie de ses bénéfices. Donc McDonald's gagne sur chaque restaurant, les franchisés gagnent aussi, et donc il y a une relation assez intéressante entre les deux.
Justement, certaines enseignes, Gérard-Marie Henry, elles proposent à la fois d'avoir des établissements en tant que franchisés,
oui,
et puis certains établissements en étant propriétaires
en
marque propre. Est-ce que c'est le cas aussi pour McDonald's?
Oui, absolument, absolument, absolument. Donc il y a des restaurants, par exemple, celui dans lequel j'avais fait la journée du fondateur, c'était un restaurant qui appartenait à McDo, et qui lui permet donc de voir comment les recettes qu'il fait évoluer, etc., comment le personnel peut travailler, pour après en donner les conseils dans les autres restaurants qui ne lui appartiennent pas. Et donc, le franchisé est amené à respecter ce qui se passe, parce qu'autrement, il perdrait sa franchise, McDonald's lui retirerait le droit de s'appeler McDo.
Alors, on parlait justement des emplois directs et indirects créés par McDonald's. On a parlé des emplois et c'est important de dire que la plupart des emplois que crée McDo, c'est aussi de l'aide parfois, même si c'est toujours un petit peu précaire, pour des contrats étudiants. Oui. C'est aussi des contrats en CDI. Et ça, Dieu sait que c'est important aujourd'hui, Gérard Marion.
Oui, et donc là, quand on regarde, c'est une bonne remarque. Hein. McDo crée à peu près chaque année, on va dire, 40 000 emplois. Il recrute à peu près 40 000 personnes. Et en fait, la grosse majorité, contrairement à ce qu'on a en tête, hein, la grosse majorité, c'est en CDI. Plus de 80% de ces personnes qui travaillent chez McDo sont en CDI. Et donc, dans l'histoire pour laquelle j'étais allé faire un petit tour chez McDo pour la journée du fondateur, c'est parce que j'avais récupéré, à cette époque-là, dans ma formation de troisième cycle, des équipiers McDo qui étaient chargés d'aller dans les restaurants des franchisés pour leur expliquer et pour qu'ils soient un peu plus contents d'eux-mêmes et qu'ils aient un peu plus d'impact. On leur avait dit, enfin j'avais discuté avec le responsable McDo du Nord-Est pour qu'ils viennent faire une formation universitaire pour qu'ils aient un peu plus d'autonomie, etc. Et c'était ça. Et donc ça veut dire qu'il y a des postes qui sont intéressants et McDo essaye de faire grimper les gens pour qu'ils deviennent partenaires, etc. Ça, c'est assez important.
Alors évidemment, on associe McDo à la junk food parce que les aliments sont transformés. C'est vrai que ce qu'on y mange, c'est pas toujours l'idéal. Malgré tout, la plupart des produits, même s'ils sont transformés après avec des recettes pas forcément très très gustatives, on va dire, Gérard-Marie-Henri, ils collaborent avec des agriculteurs locaux pour faire, par exemple, leurs frites, leurs potatoes,
absolument,
etc.
Absolument. Alors, j'ai retrouvé des chiffres hein, de l'année 2022, mais c'est pareil en 2023-2024.
Oui, il y a une
fait.
Évolution qui
donc,
veut
donc, à peu près 22 000 tonnes de bœuf. 22 000 tonnes de bœuf sont achetées pour les steaks qui sont dans les Big Mac et
c'est
autres.
C'est énorme.
18 000 tonnes de poulet, 210 000 tonnes de pommes de terre, 50 000 tonnes de blé pour faire la farine qui sert à la fabrication des petits pains et plus de 7 000 tonnes de salade. Donc voilà à peu près ce que consomme McDo en produits agricoles. Et vous comprenez que les agriculteurs qui sont en relation avec McDo sont contents d'avoir des contrats à long terme qui garantissent la fourniture puisqu'on va leur dire, si vous faites vos belles pommes de terre qui servent à faire les longues frites que théoriquement vous devez avoir chez McDo, vous aurez un contrat qui va perdurer.
Et ça, c'est assez impressionnant à voir. Et c'est justement cette collaboration des agriculteurs locaux. Là, on prend l'exemple de McDo, mais elle est de plus en plus vraie avec de nombreuses entreprises du territoire. On pense notamment aux magasins, aux enseignes comme Leclerc, Carrefour, Cora, etc., qui essayent de favoriser le produit local.
Tout à fait, qui essayent d'avoir des contrats durables, de stabilité, etc. Pas forcément des gens qui habitent juste à côté, mais de faire en sorte que le producteur de produits de base ait la certitude que l'année suivante, on ne va pas le laisser tomber avec ses pommes de terre, avec son bœuf, etc. Et ça, c'est intéressant.
Et est-ce que finalement, lorsqu'une initiative est prise par une de ces enseignes, ça ne pousse pas aussi les autres à suivre le mouvement pour avoir leur possibilité ? Donc, quelque part, elles se tirent vers le haut
tout
et vont
tout à fait. Alors là, c'est un truc qui est international. C'est-à-dire que quand un McDo est ouvert dans un pays, on a à peu près 109 pays dans lesquels il y a des McDo, on a, du fait de la concurrence que tu viens d'évoquer, on a une montée en gamme des producteurs locaux qui vont se dire, il faut que je fasse des produits qui vont attirer l'attention de McDo. Il veut des produits typé, vraiment stable, etc. Et donc, on a une amélioration de la production. C'est ce qui s'était passé en Russie avant que McDo s'en retire pour les raisons que vous connaissez. On avait vraiment une montée de l'agriculture russe spécialisée. Auparavant, McDo, Russie, importait beaucoup des pays du nord de l'Europe, de Suède, etc. Et puis, progressivement, les agriculteurs russes ont réussi à venir sur le terrain. Et maintenant, ils fournissent un autre producteur de Big Mac, enfin qui ne s'appelait plus Big Mac.
Alors, on a voulu mettre beaucoup d'accent sur des points positifs de McDonald's, Gérard-Marie-Henri. Avant de refermer cette question d'économie avec vous aujourd'hui concernant l'enseigne McDo, vous qui l'a décrypté d'un point de vue économique, vous qui êtes allé avec la journée du fondateur de l'intérieur, mais vous qui la connaissez aussi certainement cette enseigne en tant que consommateur, est-ce que malgré tout, les prix que l'on paye pour la formule du sandwich Big Mac, le menu Maxi Best Of avec la frite, la boisson, etc., McDo marche quand même bien? Est-ce qu'il ne pourrait pas faire des efforts davantage sur les prix, Gérard-Marie-Henri?
Alors, réponse complexe. D'un côté, ces marges ne sont pas extraordinaires, mais il ne faut pas qu'ils les augmentent parce qu'il y a de la concurrence. On avait parlé de Quick, on a parlé de Burger King, même on aurait d'autres chaînes qui pourraient arriver. Mais je pense qu'on en a pour son argent, à condition d'aimer le produit, à condition d'aimer la sauce Big Mac, etc. Je pense que l'équilibre est pas mal. Ils font maintenant un menu à 5 euros qui est assez intéressant. 5 euros, c'est quand même pas mal d'avoir un truc qui vous remplit un peu le ventre. Et donc, je pense qu'ils ont une force de frappe de ce côté-là qui n'est pas mauvaise. Et comme il y a justement ces concurrents, ils ne peuvent pas exagérer. Et c'est pour ça qu'ils viennent de faire la nouvelle formule. Essayer de mettre un petit peu de pep dans leur produit pour montrer que pour ce que vous dépensez, vous avez un produit un peu encore meilleur.
Merci Gérard-Marie-Henri, on est en pleine période de vacances et peut-être que certains vont s'arrêter sur la route et manger un bon McDo. Et grâce à la question d'économie qu'on vous a posée aujourd'hui, eh bien on en sait un petit peu plus sur cette enseigne. À très bientôt Gérard-Marie.
À très bientôt Alexis.
Le 18-19 sur RCF.
Et on prend la direction de Villers-le-Tilleul, désormais retrouver Jean Barois, le maire, qui nous parle ce jeudi au micro de Jean-Pierre.
Jean Barois, bonjour.
Bonjour, voilà.
Merci d'être avec nous. Alors c'est l'occasion de découvrir votre commune, une belle commune dans les Ardennes. Est-ce que vous pouvez nous présenter Villers-le-Tilleul? Combien d'habitants, monsieur le maire?
250 habitants.
Alors que font ces habitants? Des agriculteurs, mais j'ai appris aussi, on va en parler, qu'il y a un golf chez vous, le golf des Pourceaudes, et on va en parler. Alors, des habitants qui sont agriculteurs, qui sont...
Ah oui, il y a quatre grosses fermes, puisque maintenant, il y en avait 15 auparavant, hein, dans les années 50, aujourd'hui il y en a 4. Et puis voilà, mais les hectares sont tous exploités, évidemment. Mais c'est pas le gros problème, enfin problème des agriculteurs, vous les connaissez, on en parle tous les jours. Bon, mais enfin, de toute façon, ça, on va pas en parler. Mais les habitants sont majoritairement chez PSA, parce que l'usine Citroën est tout près, là. À un moment, on avait 10 foyers qui travaillaient chez PSA, hein, à peu près. Alors, puis le reste, ben, des retraités. Mais il y a quand même, on a quand même eu 3 naissances l'année dernière.
Des jeunes qui viennent.
Aucun décès, oui, voilà, des bébés. Oui, voilà.
Mais vous-même, on peut dire que vous êtes Jean Barois, conseiller municipal depuis des années. Vous avez été adjoint et vous êtes maire depuis combien de temps, vous?
Alors, moi, j'étais élu conseiller municipal en 1977. Et premier adjoint en 1989 et maire depuis 1995.
Et alors, monsieur le maire, justement, on va parler de Villers-le-Tilleul. Vous avez aussi, on peut le mentionner, d'autres responsabilités. Vous êtes maire, mais vous êtes président d'un certain nombre d'associations, oui, et de groupements.
Voilà. Hein. Oui, je suis président d'un syndicat, ainsi vu le pôle scolaire Robert Gobez à Poitéron. C'est une école qui regroupe 9 communes. Nous avons 190 élèves environ. Par contre, là, moi, puisque ça fait 15 ans que j'y suis, on a eu jusque 240 élèves et on est à 190. Donc, c'est un
pôle scolaire important, hein, celui de Poitéron, quand même.
Ouais, hein. Oui, c'est déjà quand même un gros pôle scolaire. Mais on a une baisse démographique, c'est ça qui est un peu gênant pour faire notre trésorerie, hein, parce que tout est lié à l'élève. Hein, parce qu'on prend 1400 euros par élève pour gérer l'école.
Alors, monsieur le maire, parlons du golf, parce que c'est un golf qui mérite le détour. Il n'y a quand même pas beaucoup de golf dans les Ardennes, et là, c'est sur le territoire de votre commune. Et c'est très connu, d'ailleurs.
Ah oui, c'est le seul golf des Ardennes, avec un 18 trous, un putain de golf, avec un greenkeeper, enfin bref, un professeur, quoi, aussi, de cours de golf. Ils sont environ 250 adhérents. Mais c'est pareil, ils ont beaucoup de mal aussi à gérer ce club, parce qu'il y a quand même les jardiniers, il y a beaucoup de frais.
Il y a beaucoup d'entretien. Un golf, il faut que ça soit, surtout si c'est un golf 18 trous, renommé, il faut tenir le standing.
Ah ben oui, vous voyez bien, il y en a beaucoup de pontes. Enfin, vous voyez bien, à golf, comment c'est? Il y a 4 salariés en pleine saison. Il y a même une charge
beaucoup de frais. Alors, là, il y a un problème qu'on peut évoquer, mais parce que vous l'évoquez partout, vous l'avez évoqué au moment de vos vœux. Présentez-nous un petit peu la question. Il y avait un bâtiment important qui se trouvait à côté du golf, qui appartenait au conseil départemental des Ardennes, qui l'a vendu pour un projet immobilier. Expliquez-nous, et puis ça n'a pas marché.
Voilà, alors donc, le département a vendu le site des Pourceaudes, hein, 35 hectares avec un corps de ferme, hein, où la société, je l'ai nommée, hein, Société Béjot de Belge, devait faire un projet touristique avec des gîtes, 3 gîtes, des cottages, des salles de réunion, séminaires, avec une piscine, et tout est arrêté depuis 3 ans. Les terrains se trouvent sur un pas mal de terrains qui sont en zone humide. Vous savez que maintenant, on ne peut plus toucher aux zones humides où il faut des hectares de compensation. Ça a un peu bloqué le projet au niveau de la construction. Mais la ferme qui est existante, elle, ils avaient les permis de construire, hein, tout était accordé. Ils n'ont rien fait, tout est en train de se dégrader, les toitures sont envolées, les murs s'effondrent, alors, ça va devenir une ruine.
Ça, en quelque sorte, Jean Barois, vous lancez un appel, parce que il faudrait que ça soit repris. Et puis surtout, c'est pas loin du Golfe, enfin je veux dire...
C'est côte à côte.
Alors
c'est
le Golfe qui veut quand même du standing, il a à côté de lui maintenant des friches.
Oui, et puis le Golfe, il cherchait des chambres, un hôtel ou des logements... Et comme sur le golf, la propriétaire voulait faire un hôtel, mais comme elle ne se trouve pas dans la carte communale, ces terrains, donc elle ne peut pas construire. Donc, mais sur ce terrain-là d'en face, où les Belges sont propriétaires, il y a possibilité de construire. Mais
alors, nos amis belges, parlons-en de ces amis belges. Eux, ils ont pas fait le projet prévu, mais ils sont toujours propriétaires de l'endroit. Donc, ils peuvent vendre à d'autres qui pourraient reprendre le truc. Mais alors, ils ont mis la barre tellement haut qu'il n'y a plus d'acheteurs. Il y a des acheteurs que vous voyez, mais ils n'ont pas l'argent nécessaire.
Voilà, les acheteurs que j'ai vus, moi, c'est moi qui ai pris de ce que les Belges demandent. Voilà, alors évidemment, c'est pas vendu, ça fait 3 ans que c'est pas vendu, les prairies sont même pas fauchées, tout est en friche.
Alors ça, c'est quelque chose quand même, vous avez alerté les pouvoirs publics, les aides des parlementaires.
Oui, voilà, d'accord.
Alors on peut espérer quand même, parce que vous-même, Jean Barois, vous en recevez des personnes qui seraient éventuellement intéressées.
Ah oui.
Donc il y a quand même des gens intéressés qui viennent. Cela dit, ils proposent la moitié du prix que proposent les Belges.
Voilà, tout à fait.
Alors il faut espérer que les points de vue se rapprochent, que les Belges propriétaires soient moins exigeants, et puis que les autres rajoutent un petit peu pour que puis... Alors est-ce que les collectivités locales peuvent aider? Je ne sais pas, parce qu'ils ne veulent plus s'engager non plus.
Mais si, la région Grand Est, vous savez, ils ont un gros projet de rénovation du patrimoine. Enfin là, parce que c'est quand même patrimoine, c'est une ferme du 16e siècle ou quelque chose comme ça, hein. C'est pas classé, mais enfin, les dépenses pour remettre en état sont tellement énormes que les subventions ne seront pas à la hauteur. Il faut plusieurs millions d'euros.
En tout cas, s'il y a une aide de la région, c'est toujours ça de prix pour un éventuel repreneur. Donc peut-être que si vous aviez des assurances de la part du conseil régional, en mettant ça dans la balance avec un repreneur qui vient vous voir, peut-être qu'il se laissera convaincre s'il sait qu'il aura une petite aide supplémentaire. Enfin, faut espérer.
Voilà. On l'avait signalé, cette chose-là. Mais bon, les Belges... C'est une agence immobilière belge avec qui les clients vont voir. Ils n'ont pas de pouvoir de négociation, me semble-t-il, pour l'instant.
Oui, disons qu'en parlant clairement, nos amis belges, on aime bien les Belges, mais là, ils n'ont pas tellement de marge de manœuvre, ils ne sont pas très conciliants, quoi.
Voilà,
bon, écoutez, Jean Barois, on a encore une minute avec vous. C'est une belle commune, Villers-le-Tilleul. D'ailleurs, rien que dans le nom, d'ailleurs, le Tilleul. Mais vous faites ça vient d'où, le Tilleul?
Mais parce qu'il y a quand même pas mal de tilleuls, il y en avait à tous les coins de la commune, à chaque entrée il y avait des tilleuls, bon, il y en a qui sont disparus ou qui sont morts, mais on en a replanté nous, puisque c'est quand même le but d'en garder, hein. On en a replanté. Donc, mais on a fait quelques travaux aussi de voirie, on a fait de l'emplissement, on a fait un rond-point, vous avez bien.
L'embellissement du village. Ben, écoutez, Jean Barois, je vous promets, parce que vous êtes dans nos petits carnets, c'est de refaire une émission avec vous, parce que on a fait le tiers de ce qu'on devait faire dans cette émission qui dure 9 minutes. On vous rappelle d'ici un mois et demi, avant la fin de l'année, bien entendu, la fin de l'année scolaire, avant le mois de juin. Et puis, on reparlera de tout ça. Peut-être qu'on aura une bonne nouvelle. Vous rendez compte, un repreneur.
Si votre antenne touchait quelques personnes qui seraient intéressées ou nos amis les Belges, les propriétaires, qui pourraient évidemment baisser un peu les prix, je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose.
En tout cas, on laisse cet appel, on lance cet appel, que Villers-le-Tilleul, ça vaut le détour. C'est une belle commune des Ardennes avec le golfe des Pourssaudes qu'on connaît bien. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Jean Barois, et à très bientôt.
C'est moi qui vous remercie.
Merci à tous les deux. 18h30, l'heure du journal régional. Les titres de ce jeudi 29 février, les violences envers les soignants sont en nette hausse, plus 100% en 2 ans à l'hôpital Bel Air de Charleville-Mézières, plus 42% au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes, tentative de décryptage. La région Grand Est et l'État s'engagent en faveur de la qualification des demandeurs d'emploi. Explication.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Le constat des violences envers les soignants est alarmant. Plus 100% en 2 ans à l'hôpital Bel Air, plus 42% au China. Face à ce phénomène en forte hausse depuis l'épidémie de Covid, l'hôpital prend des mesures. C'est le directeur du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes et du CH Bel Air, Thomas Talek, qui vient de dévoiler ces données, précisant aujourd'hui, 1 jour sur 2, un infirmier, un médecin, un technicien ou un administratif de l'hôpital Nord-Ardennes est victime de violences, qu'elles soient verbales ou physiques. Ce chiffre est sans doute même sous-estimé puisqu'il provient des déclarations des soignants sur une plateforme dédiée et tous ne déclarent pas les faits dont ils ont été victimes. Une situation qui ne peut plus durer. Thomas Talek.
On a pris de nombreuses mesures. La première, ça a été de signer ce qu'on appelle une convention police-justice qui va d'ailleurs être mise à jour prochainement. Cette convention va permettre de remettre à jour ce qu'on appelle un audit de sécurité qui est fait par les forces de l'ordre. Nous avons beaucoup investi sur les dernières années avec d'ailleurs des subventions de l'ARS, avec mise en place de caméras de vidéosurveillance, contrôle d'accès, renforcement de certains accès. Donc on a investi massivement. On va continuer à le faire, notamment sur Sedan. La vidéoprotection vient d'être installée. On va mettre à regret du contrôle d'accès dans certains services d'hospitalisation qui n'en avaient pas parce que ça n'était pas nécessaire. Mais là, on est obligé de le faire. On fait du soutien psychologique aux agents qui sont victimes. On fait des déclarations à la justice, à Madame le procureur de la République. On fait des rappels à la loi. On multiplie les actions. Et s'il y a d'autres que l'on peut mener, on le fera. Mais là, on a aussi besoin, quelque part, d'une espèce de sursaut de la population. Les auteurs sont une infime minorité, mais on a envie et besoin d'alerter la population sur ce que vivent les soignants, parce que c'est pas normal, c'est inacceptable.
Si les violences existaient, notamment dans les services d'urgence, le week-end, souvent avec des patients parfois alcoolisés ou au CH Bel Air, tous les services sont aujourd'hui concernés, même la maternité. Les causes sont multiples et pas évidentes à déterminer. Pour les personnels hospitaliers, les conséquences de ces violences sont parfois gravissimes car souvent incomprises et provoquent choc et sidération. Valérie Burg, directrice coordinatrice des soins au China.
On est dans un métier justement où on approche l'humain, on prend en charge des patients qui souffrent, qui sont malades. Et en parallèle, peut-être de ces temps de sérénité dans le travail qu'on devrait pouvoir avoir, apparaissent un nombre beaucoup plus important d'agressions, de violences, agressions verbales, mais très proches de l'irrespect, se rapprochant d'un manque de civisme et qui, très probablement, même certainement, heurtent les valeurs des soignants. C'est quand même la base de leur métier. Et là, on touche aux valeurs soignantes, de surcroît. Je pense qu'il y a un traumatisme lié à cette expression qui apparaît aussi comme pas justifiée. Et cet effet de sidération, je crois, met à mal psychologiquement nos professionnels qui doivent dans l'immédiateté poursuivre leurs soins et la prise en charge de patients, mais qui impactent aussi leur vie personnelle. Ils rentrent après leur exercice de journée, leur travail, avec ce vécu qui est traumatisant.
Des suivis psychologiques sont d'ailleurs de plus en plus régulièrement mis en place pour les victimes sur le moment et dans les semaines ou mois qui suivent l'infraction. Suit l'action judiciaire avec des dénonciations auprès de la procureure de la République, comme le prévoit l'article 40 de la Constitution. L'infraction de violence envers un professionnel de santé est actuellement punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Cependant, un projet de loi déposé le 24 janvier dernier prévoit un renforcement de ces sanctions pénales à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Les sœurs Clarisse viennent de fêter leurs 800 ans de présence à Reims, mise en scène par la compagnie belge de théâtre religieux Catecado, le spectacle Révolution vous fera parcourir les 8 siècles d'histoire de leur communauté entre rêve et révolution, leur foi et leur résilience, leur créativité et leur engagement pour le respect de la planète et de la fraternité humaine. Les représentations s'adressent à tout public et seront données au monastère Sainte-Claire de Cormontreuil. Rendez-vous le samedi 2 mars à 20h30 et dimanche le 3 mars à 15h30. Participation aux frais libres à partir de 5€, gratuit pour les enfants. Rendez-vous au monastère Sainte-Claire, 2 rue Pierre Bérégovois, 51 350 Cormontreuil. Plus d'infos au 03 26 86 95 12. 03 26 86 95 12. Après un premier pacte régional d'investissement dans les compétences couvrant la période 2019-2023, la région Grand Est et l'État renouvellent leur partenariat jusqu'en 2027. Objectif, proposer des formations adaptées aux personnes les plus éloignées du marché du travail et répondre aux besoins des secteurs en tension. Franck Leroy, président de la région Grand Est.
Nous sommes aujourd'hui la première région à signer le nouveau pacte avec l'État. Je m'en réjouis évidemment et c'est surtout un signal important de donner à tous les acteurs du monde économique mais également du monde de l'emploi qui attendent la signature de cet acte qui est porteur d'un certain nombre d'initiatives importantes et qui vont mobiliser des moyens publics importants. Il s'inscrit dans la continuité de la mobilisation pour l'emploi que nous avions initiée en novembre 2021, puis en juin 2023. C'était la Convention régionale de coopération avancée en faveur de l'emploi. Puis on a eu le fameux plan régional de développement de la formation et de l'orientation professionnelle. Donc il y a déjà une volonté réaffirmée de s'engager de manière très volontariste pour l'emploi et la formation.
Le nouveau pacte régional d'investissement dans les compétences a été signé vendredi dernier à Strasbourg en présence de Catherine Vautrin, l'ancienne présidente du Grand Reims, désormais ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Les publics ciblés en priorité sont les bénéficiaires du revenu de solidarité active, les travailleurs en situation de handicap, les seniors de plus de 55 ans, les jeunes de moins de 26 ans et toutes les personnes en recherche d'emploi sans bac à lauréat. De plus, les demandeurs d'emploi salariés de l'insertion par l'activité économiques deviennent éligibles aux formations. La région Grand Est souhaite former 20 000 demandeurs d'emploi en 2024 pour un budget d'environ 20 millions d'euros. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
En cette période de carême, on continue de retrouver des témoignages de prêtres religieux et religieuses du diocèse de Reims et des Ardennes. Hier soir, on a bien senti que sœur Claire Bénédicte de la communauté des Clarisses à Cormontreuil n'avait pas tout à fait fini son propos et elle nous dit ce qu'elle ressent de vivre le carême en communauté avec les sœurs Clarisses notamment.
On se stimule les unes les autres, voilà, on se stimule et on s'encourage. Et puis c'est vrai qu'au début du carême, on se retrouve tout ensemble pour se dire les unes les autres avec quoi on part pour le carême, une orientation que chacune se donne, on se partage ensemble. Et c'est important pour se stimuler justement sur ce chemin de retour au Seigneur, une plus grande liberté. Et à la fin de ce temps de carême, on se retrouve aussi ensemble pour se partager comment on a vécu ce temps de carême, ce temps de conversion. Et c'est important de se stimuler les unes les autres, voilà, s'encourager sur ce chemin de marche vers Pâques, qui est un chemin d'intériorité, mais je pense que c'est une plus grande libération intérieure pour accueillir le Seigneur qui vient faire alliance avec nous. Et aussi, à travers nos liturgies, on a aussi à le témoigner aussi dans le monde, combien le Seigneur, il veut pour nous du bien, il veut du bien, il veut qu'on avance vers un chemin d'une plus grande liberté, qu'on se délie pour s'ouvrir à plus grand que nous. C'est aussi un retour, enfin, je pense au fils prodigue qui avait pris un mauvais chemin et que son père attend et qu'il est rentré en lui-même et il a revisité sa vie et il dit « je vais retourner vers mon père ». Et là, ça lui ouvre un chemin d'une grande libération et de découverte aussi de cette miséricorde, un Dieu qui fait miséricorde. Et on a témoigné les unes aux autres, voilà, Dieu Père de miséricorde, voilà. Le carême, c'est aussi ça, découvrir qu'on a un Père miséricordieux qui vient faire alliance avec nous. Et qu'on a aussi, à travers notre prière, notre manière d'être, à témoigner de ça, d'un chemin de liberté. Le carême, c'est ça aussi, c'est un chemin d'une libération intérieure, voilà, d'un Dieu qui vient nous libérer, nous délier. Mais c'est vrai que ça demande à renoncer à certaines choses, voilà. mais c'est pour une plus grande liberté pour suivre le Seigneur et pour se laisser renouveler par lui.
Les témoignages du carême sur RCF France-Ardennes, c'est dans les 3 questions A du lundi au vendredi à 7h40.
Le 18-19 sur RCF.
L'établissement public de coopération culturelle Bord de Seine de Vitry-le-François a un nouveau directeur depuis le 1er février en la personne de Robin Fruinscholz. Robin arrive de Bourges où il était délégué culturel pour la Ligue de l'enseignement pour les œuvres laïques du Cher. Son prédécesseur Henri Didona prend sa retraite dans l'Anjou, mais on aura encore l'occasion de le croiser jusqu'à la fin de saison dans les murs de l'Orange Bleu et de la salle Simone Signoret.
Robin, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans la cité Vitriate.
Merci pour votre accueil.
Nouveau directeur de Bord de Seine, alors vous arrivez avec des idées plein la tête?
Oui, j'arrive avec plusieurs idées. D'abord l'idée de maintenir la double identité, Bord de Seine, une scène de théâtre dédiée aux arts de la scène avec un vrai projet théâtre. Et puis l'Orange Bleu qui a ses aficionados de la musique et... On est en train de préparer une programmation et voilà, on va vraiment travailler sur les deux aspects.
Je suis un peu curieux, vous arrivez d'où ?
J'arrive de Bourges, qui est une ville musicale, une ville du rock, une ville de la chanson. Et je déployais à Bourges une programmation itinérante sur le département du Cher, avec la Ligue de l'enseignement, où j'étais beaucoup au contact des élus, des associations et beaucoup du domaine scolaire aussi, où je menais de nombreux projets avec les enseignants. C'était vraiment ma manière d'investir les territoires.
Donc une manière qui va être un peu, peut-être pas identique, mais avec le même public.
Oui, forcément. Ce qui est nouveau pour moi, c'est la gestion d'un lieu, forcément. Mais il va y avoir aussi un déploiement du projet dans, comme on l'a dit, peut-être dans des établissements scolaires, dans d'autres communes. Peut-être aussi à différents endroits de la ville de Vitry-le-François qui comporte voilà, des lieux de patrimoine ou des lieux de vie intéressants, de créer un peu l'aller-retour entre les scènes qu'on gère ici et l'extérieur, de créer un passage plus spontané, plus convivial, et essayer aussi de construire les projets non pas pour mais davantage avec les partenaires. Donc par exemple, on réfléchit en ce moment avec différents partenaires de Vitry-le-François à la préparation ensemble de projets pour l'année prochaine.
Oui, parce que c'est maintenant qu'il faut préparer septembre.
Oui, on est en plein dedans, on a un comité de programmation. Alors je ne suis pas tout seul puisque voilà, je n'arrive pas à voir tous les spectacles du théâtre ou à la musique, donc j'en vois beaucoup, mais je partage avec une équipe, Elodie pour les musiques actuelles notamment, et puis mes collègues Elsa, Emeline, qui ont un regard très nourri sur le théâtre, et notamment le théâtre jeune public aussi, puisqu'on a une action autour du jeune public qui est développée aussi. Donc on discute des choix de programmation, et moi, je suis plus quelqu'un qui va faire des propositions et valider les propositions des autres, et créer un équilibre. Pour que chacun y trouve son compte, que les vitriates et les vitrias y trouvent leur compte.
Et donc, au niveau de la programmation actuelle, eh ben, elle se terminera telle qu'Henri l'avait prévu?
Oui, là on est sur une programmation pensée et mise en place par Henri. La barre est placée très haut parce qu'on a plutôt des bons taux de remplissage. Donc il y a un choix qui a été fait sur la diversité, une diversité d'approches. Et puis, donc il faudra maintenir cet équilibre, voilà, encore une fois, pour que chacun y trouve son compte. Et puis aussi qu'on ait du monde dans les salles, et notamment peut-être des choses à faire au niveau du théâtre, où il faut peut-être revoir un peu la façon dont on travaille pour que le théâtre ne soit pas seulement quelque chose qui fasse un peu peur, mais que ce soit aussi vivant, qu'il y ait de l'humour, qu'il y ait de l'intelligence, et que peut-être des artistes soient aussi un peu plus présents sur le territoire. Au travers de résidences, de moments de convivialité où les artistes partagent du temps avec les habitantes et les habitants pour mieux se connaître et qu'on soit un peu plus nombreux au spectacle.
Eh bien Robin, bon courage pour les semaines à venir, puisque les semaines qui vont compter pour la prochaine saison.
Ben merci à vous et ben encore merci une fois pour le très chaleureux accueil que j'ai eu à Vitry-le-François depuis mon arrivée.
Henri, bonjour.
Bonjour.
Vous nous quittez, vous quittez donc la direction de l'Orange Bleu, de Bord de Seine, pour une retraite bien méritée?
Oui, en fait, je vais être à la retraite, mais je n'ai pas spécialement l'intention de m'arrêter, je suis bien dans mon travail.
Vous allez nous quitter quand même sur le plan local?
Sur le plan local, oui. J'arrête la direction de Bord de Seine, puisqu'il y a un nouveau directeur, mais je ne suis pas complètement parti, parce que je me suis très attaché au territoire, et comme il y a encore quelques petites choses à faire dans les réglages institutionnels de la structure, il se peut que je m'en occupe pour rendre la boutique la plus propre possible à mon successeur.
Vous partez avec le balai, alors ?
C'est ça.
Faites le ménage avant de partir.
Non, non, mais c'est pas. Faut faire les choses bien. Voilà. Et en un an, j'ai pas eu le temps de finir tout ce que j'avais entrepris.
D'accord. Tout ce que vous avez mis en place et qu'il faut transmettre, quoi.
Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Je suis pour une transmission la plus saine possible. Et puis, vu qu'on s'entend bien avec Robin et que ça le gêne pas de me voir ponctuellement à bord de Seine, bah, c'est avec plaisir que je reviens. J'essaye de trouver des moments où il y a un petit temps de spectacle ou convivialité autour, histoire de rendre des choses agréables.
Eh ben, on va se dire, Henri, ben, bonne retraite, et puis bon, même si on se rencontre ici ou là.
C'est ça, allez, à bientôt.
Vous avez reconnu sa voix, les propos ont été recueillis par Gérald Gaillet de la rédaction de RCF Cœur de Champagne.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Deux invités en studio pour évoquer différentes actions du Secours catholique, désormais les Maraudes et les Cafés Sourires. Marie-Annick Roger et Thierry Jacotto sont avec Jean-Pierre.
Marie-Annick Roger, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Thierry Jacotto, bonjour. Alors on va aujourd'hui parler du Secours catholique. Deux axes un peu différents mais qui sont finalement la même chose, le Café Sourire et les Maraudes du Secours catholique. Alors Thierry Jacotto, vous êtes médecin, on vous a déjà accueilli sur notre antenne en tant que, en tant que pédiatre, mais aujourd'hui, le Café Sourire du Secours catholique, qu'est-ce que c'est exactement ?
Les personnes qui viennent au Secours catholique peuvent venir prendre leur petit déjeuner tous les matins, sauf le dimanche.
8h30, 11h.
Voilà.
Il y a un public habitué ?
Le public est tout à fait habitué.
Alors,
café,
mais aussi jus de fruits, enfin, il y a...
C'est ça, quand même un petit peu copieux. Il y a vraiment il y a un petit déjeuner. Et quelquefois, c'est très utile.
Mais alors, c'est
et notamment même pour des enfants. Oui, c'est tous les
tous
jours,
les
sauf
jours.
Le dimanche.
Ça veut dire qu'il y a quand même toute une équipe au Secours catholique, parce que...
Plusieurs équipes.
Il faut forcément, tous les jours, il faut assurer, comme on dit.
Bien sûr.
Alors, évidemment, vous faites ça depuis plusieurs années. Vous connaissez les personnes, ils vous connaissent par votre prénom. Un peu, beaucoup, ça dépend lesquels.
Pas forcément, mais...
Ils vous connaissent, en tout cas.
Oui.
Alors, le Secours catholique, bien sûr, on connaît bien, Marie-Annick Roger. Il y a aussi ce qu'on appelle la Maraude, ou ce qu'on appelle aussi le Café de rue. Alors, Marie-Annick Roger, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, finalement, la Maraude du Secours catholique ? Ça consiste en quoi ?
Eh bien, ça consiste en une équipe de deux personnes qui va dans la rue, au-devant des SDF. Parce que ceux-ci, ou n'ont pas envie, ou ont peur de venir au Secours catholique pour prendre leur petit déjeuner. Ou quelquefois, ils font les deux. Ils viennent prendre leur petit déjeuner au Café Sourire, et ils repartent dans la rue, ils nous attendent pour avoir un autre café avec un petit gâteau.
Alors Marie-Annick Roger, vous avez un parcours, la place d'Erlon, la
tout
mairie, la rue de Vel.
Tout à fait, on commence par la place d'Erlon, et puis après on remonte pour essayer de trouver des personnes dans les rues un peu adjacentes. En fin de compte, on termine, moi j'allais jusqu'au marché de Saint-Maurice. Maintenant, on a de moins en moins de personnes dans l'axe Gambetta. Et on fait surtout la rue de Vel, où là, on a beaucoup de monde.
Thierry Jacotto, justement, oui. Je le disais tout à l'heure avec le Café Sourire, sur le parcours que vous empruntez, vous avez en quelque sorte des visages que vous connaissez. Ils vous reconnaissent, là,
Oh oui, énormément. Ils sont très contents de nous voir. Ils sont très, très contents de nous voir. Et ils parlent, et on propose un café. Et en même temps, ils commencent à parler, et ils libèrent, ils disent ce qu'ils ont envie de raconter. Et ça, c'est très important.
Marie-Annick Roger, vous avez dans un petit sac ce qu'il faut, parce que...
Alors, moi, j'ai le sac à dos, parce que je ne peux plus porter de charges lourdes. Et mon binôme porte gros thermos de café. Et donc, on propose un café. Il y a des gens qui sont un peu désolés parce qu'ils voudraient bien du thé, mais on ne peut pas tout transporter non plus. Et dans mon sac à dos, il y a des gâteaux, des madeleines, des sucres, des petites touillettes, et puis quand il le faut, il y a des masques, il y a du gel pour les mains.
Est-ce qu'on peut dire que vous êtes attendu d'une certaine façon ?
Oui,
Ah oui, ça c'est
à coup sûr, c'est certain.
Ils connaissent les horaires à peu près. Oui. Ils savent bien que c'est entre 9h et 11h. Il faut être revenu au Secours catholique. Ils connaissent les personnes. Ils vous reconnaissent, Marianne Ygrogeh. Vous arrivez un petit peu comme la personne qui les raccroche à une autre vie, à une vie, j'allais dire, entre guillemets, normale.
Oui, tout à fait. Et non seulement ils nous reconnaissent, mais ils nous attendent. Et quand on se promène en ville, en dehors de la maraude pour faire des courses et tout, ou quand on va à la messe, à la cathédrale et autres, mais je vous ai pas vu mardi, vous n'êtes pas venu, vous étiez pas malade. C'est assez sympathique d'ailleurs les liens qu'on crée avec eux, parce que on se rend compte qu'on n'est pas seulement un distributeur.
Mais ces liens-là, ils sont très importants, parce que les personnes qui donnent de l'argent aux mendiants le font souvent sans les regarder, en déposant des pièces uniquement dans une écuelle. Et ça, ça finit par les blesser très profondément. Et nous, nous n'apportons pas d'argent, nous apportons un café et surtout de la parole et du sourire. Et on écoute et ils nous disent ce qui va, ce qui ne va pas dans leur vie. Et ça, c'est très important.
Vous êtes au courant aussi, avec l'habitude, de leur vie un peu personnelle.
Oui.
Au bout d'un certain temps, vous connaissez un petit peu ces personnes.
Oui, tout à fait. Notamment, par exemple, il y a une personne que nous voyons très régulièrement et qui, maintenant, ne peut plus loger là où elle était logée généreusement par un couple qui a déménagé, qui est parti un peu plus loin. Et nous allons essayer de rassembler un maximum de renseignements pour qu'on puisse lui fournir un jour un appartement dans lequel il pourra vivre, cette personne pourra vivre.
Alors la question, combien y a-t-il d'équipes, Marianne Ygrogeh? Vous n'êtes pas simplement tous les deux, il y a d'autres personnes.
Pas du tout. Il y a trois journées où on tourne, le mardi, le jeudi, le vendredi. À chaque fois, il y a un binôme. Et par exemple, mon binôme à moi, en ce moment, il a été opéré du bras, donc il ne peut pas m'accompagner parce qu'il ne peut pas porter. Et donc, j'ai toujours quelqu'un au Secours catholique, c'est extraordinaire. C'est très rare qu'on soit en manque. Une fois, j'ai pas pu le faire parce que personne ne pouvait m'accompagner, parce que l'équipe était pas assez nombreuse sur place pour les petits déjeuners, pour pouvoir me donner quelqu'un pour m'accompagner. Ou sans ça, j'ai toujours trouvé quelqu'un. Alors, il faut savoir qu'on a des étudiants qui sont là parce que ils ont dans leur cursus une obligation de faire un stage dans le social. Donc, ils sont là au Secours catholique et c'est souvent un de ceux-là qui m'accompagne. Ou alors, il y a aussi des réfugiés qui sont maintenant bénévoles au Secours catholique et qui nous accompagnent dans la rue pour connaître et apprendre un peu ce que c'est.
Alors ça, c'est pour ceux qui aident, c'est vous. Et a-t-on une idée du nombre d'aidés, Thierry Jacotot? Peut-être pas forcément en tête, à quelques unités près.
Minimum. Minimum. Auparavant, c'était plutôt 12 ou 15.
Donc il y a quand même, avec le nombre d'équipes, quand même pas mal de personnes qui sont contactées.
Oui.
Combien de temps, le nombre de fois par semaine, vous l'avez dit, donc c'est tous les jours avec la maraude, le café de
rue. Il y a trois maraudes par semaine, mais il y a tous les jours un café sourire, sauf le dimanche.
Et alors, j'ai déjà posé la question, mais on peut être dans la maraude et revenir au café sourire, c'est pas interdit.
Bien sûr.
Est-ce que ça ne fait pas partie de ce qu'on appelle, et c'est sans doute la grande richesse du Secours catholique, le maillage du Secours catholique qui finalement a des contacts avec les personnes, les aidants, les aidés, ça forme, j'allais dire, entre guillemets, une famille, la famille du Secours catholique. Vous appréciez, vous, Thierry Jacotot, cette famille? C'est une ambiance particulière.
Oui. Et puis qui est nécessaire, et ça nous donne du dynamisme.
Il faut dire, Marianne Ygrogeh, que vous connaissez le Secours catholique, que je pense que vous l'avez présidé à un certain temps.
Non, pas du tout. C'est ma belle-mère qui était déléguée du Secours catholique pendant 35 ans, je crois. Et c'est comme ça que moi j'ai connu le Secours catholique.
Vous avez quand même baigné, j'allais dire, dans cette aide.
Depuis mon mariage, j'allais servir la soupe.
Eh ben écoutez, c'est quand même formidable. On est en période de carême. On est heureux de vous accueillir. Mais ce qu'on aimerait bien, c'est que d'ici quelques temps, on puisse vous retrouver et faire un autre bilan, revoir un petit peu ce qui se passe. En tout cas, on vous remercie d'avoir été avec nous en ce 29 février. Mm-hmm. Et alors, on vous retrouve bientôt.
Jean-Pierre, si on a encore une petite seconde. Il y a des gens qui nous interpellent dans la rue pour nous demander ce qu'on fait et qui, à la suite de ça, ils nous disent on n'a pas de sous à donner, particulièrement des jeunes, mais par contre, on viendrait bien vous aider. Voilà. Alors, on leur donne l'adresse et ils viennent. Donc, ils
c'est
sont
formidable.
Tous les bienvenus.
Merci Thierry Jacotot, merci Marianne Ygrogeh.
Merci Jean-Pierre.
Le 18-19 sur RCF.
Encore quelques petites minutes à passer ensemble ce soir dans toute la Champagne-Ardenne. On finit cette deuxième partie d'émission comme on l'a commencé ce jeudi avec un nouveau témoignage autour du carême, cette fois avec le père Vincent Dilizia, prêtre dans le diocèse de Reims et des Ardennes, au téléphone avec nous. Vincent Dilizia, bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour tous les auditeurs auditrices de RCF.
C'est la question que l'on a pris l'habitude de poser dans cette période du carême. Qu'est-ce qu'il représente ce temps fort pour vous, Vincent Dilizia ?
Eh bien, Alexis, je crois beaucoup que cette question de la conversion du cœur, de changer sa vie, de la rendre toujours plus belle, de permettre à Dieu de la rendre plus belle, c'est quelque chose de permanent. C'est tous les jours, tous les instants que nous sommes appelés à une vie de conversion. Et le carême, pour moi, ben, c'est peut-être la piqûre de rappel tous les ans pour dire « Eh, on n'oublie pas que... » Mais c'est pas 40 jours seulement. C'est pour me rappeler que toute ma vie doit devenir belle, doit devenir un art de vivre. Je vous rappelle d'ailleurs au passage que Saint François d'Assise menait 5 à 6 carèmes par an, pour des grandes fêtes notamment. En Orient, je crois que c'est comme ça aussi.
Effectivement, vous le dites, Vincent Dilizia, le carême, ce n'est pas seulement cette période de 40 jours, c'est tout au long de l'année, tout au long de votre vie chrétienne. Mais comment vivez-vous ce temps, plus particulièrement, vous, de 40 jours qui nous mène jusqu'à la fête de Pâques, Vincent Dilizia ?
Moi, ça a changé au cours de ma vie. Il y a eu différentes époques. Je pense qu'il n'y a pas une seule façon de vivre le carême, de vivre la conversion. Moi, je trouve que avec cette nouvelle mission que l'évêque nous a donnée, notre fraternité missionnaire, si on veut être vraiment missionnaire, c'est-à-dire si on veut vraiment aller vers les autres et les éveiller à Jésus et trouver Jésus dans leur vie, eh bien, ça nécessite d'être le plus ouvert possible. Et donc, pour moi, c'est de repérer dans ma vie ce qui me ferme aux autres. Voilà. Pour être missionnaire, il y a à repérer d'abord comment moi je me laisse missionner par le bon Dieu, par l'Esprit Saint, et de repérer mes fermetures. Voilà, c'est plus un carême de relations, si j'ose dire.
Eh bien justement, puisque vous appuyez sur un carême de relations, vous qui faites partie de la fraternité missionnaire du diocèse de Reims et des Ardennes, Vincent Dilizia, le fait de vivre ce temps fort du calendrier chrétien en communauté avec la fraternité et au fil des rencontres que vous faites différentes sur le terrain chaque jour, est-ce que ça renforce peut-être ce symbole qu'est le carême ?
Eh bien nous d'abord, la fraternité, nous allons vivre, tous les ans on le fait, jusqu'à présent ça n'a jamais été pendant le carême, là on va le faire pendant le carême, un pèlerinage à Notre-Dame de Vie, dans le sud de la France, et nous allons y travailler, y méditer les catéchèses du pape sur les vices et les vertus, voilà. Donc ça, ça va être un grand moment pour notre fraternité. Et puis, à titre perso, moi j'aime bien tous les ans, depuis que l'archevêque est là, écouter, ou en différé ou en présentiel, ces conférences de carême le vendredi soir à 20h, c'est une belle nourriture.
Eh bien, merci Vincent Dilizia de nous avoir présenté la façon dont vous vivez ce carême. Et on vous souhaite évidemment un très bon carême qui va nous mener jusqu'à la fête de Pâques le 31 mars prochain. À très bientôt, Vincent Dilizia.
Au revoir, Alexis. Au revoir, tout RCF.
Et c'est sur ce témoignage que se referme le 18-19 en Champagne ce soir. Avant cela, on vous le rappelle encore une fois, vous en avez pris l'habitude, c'est certain. Les trois questions avec les prêtres, les religieuses, les religieux du diocèse de Reims et des Ardennes, c'est tout au long du carême à 7h40 du lundi au vendredi. Si jamais vous avez pris en cours des numéros ou que vous avez manqué certains épisodes, que vous avez envie d'entendre ou de réentendre certains témoignages des prêtres, des religieuses, des religieux du diocèse de Reims et des Ardennes, on vous donne rendez-vous sur le site rcf.fr dans la rubrique programme en sélectionnant votre radio RCF Reims-Ardennes. Nos amis de RCF Cœur de Champagne ne sont pas en reste non plus puisqu'il y a également la rubrique Mon Carême qui est proposée, que vous retrouvez régulièrement dans le magazine régional, que vous pouvez aussi retrouver toujours sur le site rcf.fr, cette fois en sélectionnant la radio RCF Cœur de Champagne. Voilà, ça c'est pour les rendez-vous qui avaient lieu ce soir, mais on vous donne aussi rendez-vous demain, 18h10, pour le magazine régional. Parmi nos invités, nous serons notamment avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes et président de la Conférence des évêques de France. Il posera son regard sur l'actualité de l'Église dans le diocèse de Reims et des Ardennes, mais aussi à travers l'Église en France et à l'international. Bon, ça sera aussi l'occasion pour lui de poser son regard sur l'actualité et pourquoi pas le mouvement agricole. Vous l'entendrez sur RCF Reims-Ardennes dès 7h demain matin. Vous le retrouverez dans le magazine régional demain soir. avec les habitués du vendredi fidèles au poste. On pense notamment à notre chroniqueur Jacques Cohen. Et puisque l'on est en plein teasing de l'émission de demain, il y aura de très belles découvertes, notamment le portrait de la chanteuse Silda, qui est une chanteuse qui monte tout doucement, cette artiste chalonnaise. Nous serons aussi avec Myriam Murier et Cécile Margontier, respectivement bénévoles et présidentes de l'association Motherhood, une association installée sur le territoire rémois. Ça sera l'occasion de belles découvertes. Mais pour tout cela, il faudra être fidèle au poste demain à 18h10. Dans quelques instants, c'est l'information nationale qui prend le relais. Et puis à 19h12, le retour de vos programmes locaux sur RCF Cœur de Champagne et sur RCF Reims-Ardennes, où bien évidemment, vous avez rendez-vous avec les méditations. Et puis le programme continue de vous accompagner tout au long de la soirée. Alors on vous souhaite une très bonne soirée en compagnie des programmes de RCF et on se retrouve demain dès 7h pour l'actualité et pour l'information et à 18h10 pour le magazine régional. Bonne soirée en compagnie des programmes de RCF.